un podcast France Culture.
À l'ère de l'Anthropocène, nos sociétés ont à affronter des défis jamais égalés et qui engagent le devenir de l'humanité. Et face aux enjeux démocratiques et écologiques du XXIe siècle, beaucoup s'accordent sur le fait que nous devons réinventer nos modèles. Mais comment et pour emprunter quel autre chemin? Parmi les voix qui se font entendre, certaines prônent une métamorphose de la société via une économie de la coopération, avec plus de collectifs, de confiance, de solidarité, d'entraide, dans une société coopérative plus juste et durable. Avec nous, deux penseurs de cette société de demain. Éloi Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'OFCE Sciences Po, à Pont-Paris Tech et à l'Université de Stanford. Votre dernier livre s'intitule « Coopérer et se faire confiance », un livre édité chez Rue de l'Échiquier. Et avec nous, Gauthier Chapelle, bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes en duplex depuis les studios de la RTBF, Radio-Télévision Belge de la Communauté Française, donc vous êtes à Namur, et vous êtes ingénieur agronome, chercheur, docteur en biologie, co-auteur avec Pablo Servigne des livres « L'entraide, l'autre loi de la jungle », livre édité par Les Liens qui libèrent, et « L'effondrement et après expliqué à nos enfants et à nos parents », c'est un livre paru au Seuil. Et puis dans l'œil du monde planète, la journaliste du quotidien Le Monde, Anne-Françoise Hiver, nous parlera de la mortalité record dans les fermes à saumon en Norvège. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine de l'environnement de cause à effet sur France Culture, magazine préparé par Anaï Morales avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Anthony Thomasson et depuis la RTBF, Jérémy Marchal.
Ils se sont donné rendez-vous à 20h précises. À leur balcon, leur fenêtre.
Pour le personnel hospitalier !
Dans ces immeubles de Boulogne, plusieurs minutes d'applaudissements nourris pour remercier les soignants de leur dévouement en pleine épidémie de Covid-19.
Il y a des gens qui passent leur vie à aider à sauver celle des autres et je pense qu'on leur doit bien ça. Je suis presque émue, quoi. Voilà, je trouve ça touchant que tout un quartier comme ça se mobilise.
Un hommage aux médecins, infirmiers ou ambulanciers mobilisés jour et nuit.
Éloi Laurent, applaudissements. C'est un reportage diffusé sur France 2 le 18 mars 2020. On s'en souvient tous, hein, c'est dans notre mémoire. Et dans votre dernier livre, vous en parlez de cette crise de Covid-19. Elle marque un avant et un après. C'est d'abord une crise des liens, dites-vous.
Alors c'est mon analyse et c'est effectivement un livre qui fait comme si le Covid avait existé. Hein, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles, et c'est bien compréhensible, on veut oublier cette crise terrible et donc on est passé véritablement à autre chose et on a le sentiment qu'au moins 3 ou 4 crises sont venues effacer cette crise-là. Simplement, je crois que c'est une crise absolument structurante pour le temps humain. Moi, c'est pour moi la crise qui nous fait entrer dans le 21e siècle. C'est la crise qui nous fait entrer dans l'ère des chocs écologiques qui vont malheureusement se multiplier au cours des décennies à venir et qui posent 2 questions absolument majeures. Qu'est-ce qui nous est essentiel? Qu'est-ce que nous voulons absolument préserver face à ces chocs écologiques? Et comment le préserver? Et il se trouve que la réponse à ces 2 questions, c'est la coopération. C'est-à-dire que ce qui nous est le plus essentiel en tant qu'espèce, c'est notre capacité à coopérer. C'est ça qui nous distingue dans le règne du vivant. C'est ce vers quoi convergent absolument toutes les disciplines qui étudient l'évolution longue de l'humanité depuis 7 millions d'années. Ce qui fait que nous sommes uniques dans le règne du vivant, c'est cette capacité à être des êtres sociaux, voire ultra-sociaux, c'est-à-dire à être capable de faire les choses ensemble, mais aussi de tout simplement œuvrer ensemble et de rêver ensemble, d'imaginer ensemble. Et dans une crise comme celle-là, on comprend immédiatement que ce que nous avons perdu de plus précieux, c'est nos liens. Et dans l'extrait que vous avez montré, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'on applaudissait certes les soignants, mais on applaudissait la société en train de se reconnaître comme telle. C'est-à-dire que on essayait de communiquer, puisque précisément nos liens étaient touchés, et c'était une façon d'être ensemble, ces applaudissements.
De faire cohésion, en fait.
De faire cohésion. C'était une façon d'être ensemble, en fait, de s'applaudir en tant qu'espèce sociale et coopérative. Et bien sûr, d'applaudir ceux qui étaient et celles qui étaient envoyés sur la ligne de front pour précisément soigner, traiter et nous sortir de là. Mais dans cette espèce de crise de l'isolement, c'est vraiment l'isolement qui était le mot-clé de cette période-là, il y avait cette nécessité d'être ensemble. Voilà.
Nous allons parler de ces notions d'isolement aussi, des stigmates du Covid-19, même si la société de l'oubli qui est la nôtre semble avoir effacé les intentions immédiates aussi de changer de modèle économique et de changer cette prédation des humains sur la planète. On voit bien que le monde d'avant existe toujours, mais il y a cette entrée dans le siècle des chocs écologiques et un révélateur, dites-vous, ce Covid-19, de l'ampleur systémique de la déstabilisation de la biosphère et de ses conséquences. Est-ce qu'on peut parler de votre livre comme d'un manifeste, voire d'un appel au sursaut solidaire et coopératif? Je précise que vous ouvrez le livre par une citation de Martin Luther King, « La haine paralyse la vie, l'amour la libère ». C'est un message de solidarité, d'entraide, d'amour que vous aviez d'emblée envie de faire passer?
Alors, c'est un manifeste, mais c'est aussi un essai exploratoire. En fait, c'est un défi, en un sens, que je me suis lancé, qui est comment parler de la question qui se trouve au cœur de l'espèce humaine en moins de 100 pages, de façon claire et compréhensible. Et en moins de 100 pages, j'essaye d'éclairer, autant que je le peux, ce mystère qui est le mystère de la prospérité humaine. Et une fois de plus, si on remonte très très loin dans le temps et qu'on essaye de comprendre comment nous avons évolué vers des sociétés qui sont aujourd'hui tellement prospères qu'elles sont capables de faire s'effondrer la biosphère, eh bien, au cœur de ce mystère de la prospérité humaine, il y a la question de la coopération. C'est là. Donc c'est à la fois une interrogation sur le passé de la prospérité humaine. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus prospères? C'est la coopération. C'est pas inutile de le rappeler à l'heure du marché triomphant, à l'heure où en France on décide qu'on va faire des politiques d'austérité pour mettre à mal les services publics, pour mettre à mal tous les collectifs qui résistent encore au nom de règles budgétaires absurdes et d'une idéologie complètement dépassée sur le plan économique. Donc c'est une interrogation sur qu'est-ce qui fait que nous sommes prospères. Une fois de plus, c'est la coopération. Une interrogation sur la prospérité aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de détruire le soubassement de notre bien-être qui est la biosphère? Et pour ça, il faut avoir cette lutte qui, à mon avis, est fondamentale à comprendre entre la question de la coopération et la question de la collaboration et l'avenir de la prospérité qui est comment arriver à mieux faire et à retrouver cette harmonie à la fois avec le vivant, nos liens naturels et au sein de la société, nos liens sociaux. Et une fois de plus, la crise du Covid, moi je l'interprète comme une crise des liens. C'est ça, à mon avis, le message essentiel qu'on doit en retenir.
Gauthier Chapelle, c'est aussi votre position face à une société qui se fracture et qui se perd. Il est urgent de se réinventer, de coopérer collectivement, parce que les liens sociaux sont les plus précieux. Et est-ce que vous regardez cette espèce humaine comme une espèce qui a oublié qu'elle était une espèce coopérative?
Oui, absolument. C'était le sens de notre bouquin avec Pablo Servigne sur l'entraide, l'autre loi de la jungle. Le titre en lui-même disait exactement ça. C'est qu'on nous a seriné la loi de la jungle, de la compétition et de la prédation, que je pourrais, maintenant que j'ai lu le bouquin des lois, la collaboration rentre là-dedans. La collaboration, c'est une espèce de façon déguisée, c'est prétendre coopérer tout en faisant de la compétition et de la prédation. Je ne sais pas s'il est d'accord avec ce que je viens de dire, mais on pourra en parler. Oui. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que effectivement, notre culture nous chante que sans compétition, sans cette loi du plus fort, pas de salut, alors que effectivement, là, on est complètement d'accord là-dessus, c'est la coopération qui fait l'espèce que nous sommes et qui a permis cette prospérité. Après, on peut discuter sur quelle prospérité avec S, il y a des prospérités différentes, mais en tout cas, y compris celle-ci, est un produit de coopération. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a oublié. Et nous qui avons aussi mis ça dans le contexte de la crainte d'un effondrement de la civilisation, pas de la fin de la vie sur Terre, mais d'un effondrement de la civilisation, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arriver dans ces effondrements de civilisation avec une culture de la coopération et pas une culture de la compétition / collaboration. Je crois qu'il faudra qu'on éclaircisse ça.
Eh ben, on va le faire tout de suite, Éloi Laurent, entre collaboration et coopération, le distinguo est lequel?
Alors, on pourrait dire, au fond, sont deux termes qui sont synonymes, c'est pas très utile de vouloir chercher des différences. En fait, ce qui m'a poussé à vouloir vraiment établir une distinction claire entre collaboration et coopération, c'est que, En apparence, nous sommes dans un âge d'or de la coopération. Nous sommes dans un âge d'or, si on l'entend au sens le plus général du terme, c'est-à-dire le fait de s'associer à d'autres humains pour faire des choses. Ok ? Admettons que ce soit ça. Si c'est le cas, alors nous avons des réseaux numériques qui sont absolument florissants, nous avons des écosystèmes numériques qui sont florissants, et nous avons cette hyperconnexion permanente qui nous relie à des autres qui sont proches, les gens s'envoient des SMS alors qu'ils sont à 50 cm de distance, et des gens qui sont très lointains, et en fait on n'a jamais autant collaboré avec autant d'humains sur autant d'échelles différentes. Le problème c'est que derrière cet âge d'or qui est collaboratif, il y a une crise profonde de la coopération. Et donc, on peut simplement s'en tenir à l'étymologie. La collaboration, c'est cum laborare, c'est-à-dire travailler ensemble. Donc ce que vise la collaboration, c'est le fait de faire quelque chose ensemble, et on pourrait dire de produire quelque chose, et ça distribue un certain nombre de critères. Le fait que ce soit à horizon déterminé, le fait que ça mobilise une seule des capacités humaines qui est la capacité de travailler, le fait que ce soit essentiellement pour produire, le fait que ce soit vertical, il y a un certain nombre de propriétés qui sont attachées à cette capacité à collaborer.
Donc il y a un calcul à la base.
Voilà, c'est très calculatoire en fait la collaboration. Et moi je mets ça en regard avec la coopération qui, dans l'étymologie, nous dit que c'est œuvrer ensemble, donc ça mobilise beaucoup plus qu'une seule capacité qui est la capacité de travail. Ça peut être œuvrer ensemble pour rêver, imaginer, pas forcément pour faire. Ça peut être œuvrer ensemble pour ne pas faire. Toute la réflexion sur la question de la sobriété, c'est justement comment inventer des façons de ne pas faire, de ne pas produire. C'est très horizontal et ça n'est pas vertical. C'est un espace qui est illimité, c'est-à-dire que ça n'est pas un objet déterminé en un temps déterminé pour une finalité particulière. Et je pense que cette distinction est utile parce que ça nous renvoie à ce qui est le cœur de la prospérité humaine, d'accord ? Si on entend prospérité au sens non économique comme simplement le fait de pouvoir se développer en tant qu'espèce, il y a une prospérité tout à fait spectaculaire de l'humanité, ne serait-ce que par le nombre que nous sommes devenus, mais aussi par un certain nombre d'améliorations très importantes qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, par exemple sur les questions de santé, d'accord ? Il y a un vrai progrès sanitaire absolument majeur dans la dernière moitié du XXe siècle, et donc on peut dire qu'on n'a jamais été aussi nombreux en aussi bonne santé, et que si on prend ces deux critères simples, on a une prospérité humaine qui est tout à fait éclatante, et au cœur de cette prospérité, c'est la coopération qui est centrale, et pas la collaboration. Et je pense que l'on est dans des sociétés hyper collaboratives, qui en fait masquent, sont des paravents mis devant une crise très profonde de la coopération. On a du mal à inventer précisément ces nouvelles manières d'être ensemble, dont vous disiez, et dont Gauthier et Pablo montrent qu'elles sont essentielles pour affronter les chocs écologiques. Donc c'est pour ça que je fais cette distinction qui peut paraître superficielle, mais qui en fait est profonde parce qu'elle va nous mettre immédiatement en face les sociétés hyper collaboratives numérisées dans lesquelles nous sommes et la réalité d'une crise de la coopération qui est très profonde, très aiguë et peut-être qui n'a jamais été aussi forte.
Donc la métamorphose de la société passera plus facilement ou passera par la coopération plutôt que la collaboration, parce que la coopération permet aussi tout cet imaginaire, c'est ça, pour engager une métamorphose.
Voilà, permet de libérer en fait ce qui est l'innovation sociale. Une fois de plus, quand on pense à l'innovation et qu'on entend des discours, qu'on ressasse sur le fait qu'on va sortir des crises écologiques par l'innovation, la conception de l'innovation, c'est l'innovation technologique. C'est les machines, c'est l'aspirateur géant qui va absorber tout le CO2 miraculeusement. Dans 10 ans, on n'a donc pas besoin de changer nos modes de vie. Alors qu'en réalité, la véritable innovation qu'il va falloir travailler, c'est ce pourquoi nous sommes véritablement doués, c'est l'innovation sociale. Et au cœur de cette innovation sociale, il y a la question de la coopération et de la confiance.
Gauthier Chapelle, vous avez travaillé, vous, et pensé, malaxé en tout cas, les notions, les pensées sur les organisations hiérarchiques pyramidales qui, pour vous, sont l'un des obstacles majeurs au retour de l'entraide. On peut en parler, justement, de ce modèle pyramidal et puis des groupes les plus coopératifs dans le monde qui sont ceux qui s'en sortent le mieux.
Je suis frappé par cette qualification de la collaboration qu'elle est verticale. Et moi, dès que j'entends le vertical, je vois les pyramides et je vois les organisations hiérarchiques pyramidales. Et le point de départ, nous, de notre réflexion là-dessus, et c'est une réflexion qui n'est pas encore aboutie tellement je trouve qu'elle a des ramifications, c'est que dans le vivant, il n'existe pas d'organisation hiérarchique pyramidale. Les premiers à l'avoir inventé sont les sociétés qui se sont sédentarisées, qui ont inventé l'agriculture, les villes, etc., dans un ordre qui peut être discuté, mais en tout cas, c'est de ce côté-là. Mais si vous prenez la forêt, le fonctionnement, par exemple, d'une forêt qui a été popularisée avec ces réseaux incroyables entre les arbres et les champignons, on atteint un niveau d'entraide basé implicitement sur le bon sens qui est que veiller sur la santé des autres me permet de veiller sur la mienne. Alors, pas après une réunion philosophique, mais c'est quand même ça qui est appliqué. Et tout ça se fait de façon totalement déhiérarchisée, c'est-à-dire de façon anarchiste au sens profond du terme anarchisme, c'est-à-dire avec, voilà, il n'y a pas de pouvoir central qui centralise les infos et puis qui dit quoi faire, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, moi, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, donc, en fait, la résilience sur le long terme de réseaux aussi complexes qu'une forêt qui allait d'un côté à l'autre de l'Eurasie, où tout était connecté, tout se faisait en décision locale, mais en connexion, en interconnexion dans tous les sens. Et ça, à voir avec ce qui se passe dans les organisations hiérarchiques pyramidales, où par définition, dans une organisation de ce type, si vous êtes dans le bas, vous avez peur de ne jamais monter. Si vous voulez monter, vous devez mettre votre pied sur la tête du voisin, ce qui n'est pas exactement un moyen d'induire la confiance. Hein, la confiance qui est un mot-clé du titre là, du livre des lois. Et par ailleurs, si vous êtes en haut, vous avez tout le temps peur, en haut ou quelque part sur les strates intermédiaires, vous avez tout le temps peur de descendre plus bas. Vous passez votre temps à essayer de maintenir votre position. Donc pas nécessairement à faire ce que vous êtes censé faire, mais à essayer de maintenir votre rang. Et donc moi je pense que ces organisations hiérarchiques pyramidales qui conditionnent toute notre vie, parce que c'est les administrations, c'est les écoles, c'est quand vous allez chercher de l'essence, vous l'achetez à une organisation hiérarchique pyramidale emboîtée à des tas d'autres, hein, pour l'extraction des métaux, tout l'extractivisme se fait dans des organisations hiérarchiques pyramidales. Et en fait, qu'est-ce qui nous reste effectivement? Il nous reste la famille, où on peut ne pas le faire en pyramidale, hein, on peut le garder en pyramidale, mais il nous reste la famille, les espaces amicaux, etc., et les quelques associations et les rares entreprises qui s'essayent, et d'ailleurs souvent avec un certain bonheur, à des modes d'organisation beaucoup plus plats. Et donc moi je pense que par rapport à l'ère dans laquelle nous rentrons, il faut absolument remettre ça en question, parce que ces hiérarchies pyramidales sont aussi toutes celles qui verrouillent toutes les inégalités. Et rentrer avec des inégalités dans un essai de transformation sociétale majeure, ça paraît extrêmement compliqué, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient exactement cette illustration-là.
Alors, petite question quand même, parce que quand on pense pyramidal dans le monde du vivant non humain, on pense, mais peut-être qu'on se trompe, hein, Gauthier Chapelle, aux fourmilières, aux termitières. Même là, ce n'est pas une organisation pyramidale?
Mais non, alors ce qui est drôle, c'est qu'on a projeté des noms qui tout de suite appelle la pyramide, puisqu'on parle de la reine des fourmis, mais la reine des fourmis, elle donne des ordres à personne, elle pond des œufs. La reine des fourmis, c'est même plutôt un peu la mandaille de service qui pond des œufs, qui pond des œufs, qui pond des œufs, et puis le reste, c'est une auto-organisation qui ne rend pas de compte à une autorité centrale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a mis des noms qui induisent cette idée-là, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Et loi Laurent?
Non, j'avais la même question, Gauthier, qui était les sociétés animales. Je me disais, peut-être que on pourrait dire que, au fond, les végétaux sont horizontaux, que les animaux sont quand même un petit peu verticaux. C'est-à-dire que ce qu'il y a de vertical chez l'humain vient aussi du fait que c'est des sociétés animales. Prenons la question des loups. Il y a incontestablement des sociétés de loups qui sont des sociétés verticales et qui sont construites comme ça. Donc je me disais, au fond, je suis très sensible à l'argument qui est de dire qu'il y a quelque chose de très horizontal dans la coopération végétale et de très décentralisé et presque d'anarchique, c'est-à-dire la vie comme quelque chose de un processus anarchique qui aboutit à quelque chose de fécond. Et en même temps, il y a des sociétés animales qui sont indéniablement pyramidales, me semble-t-il.
Alors, je dois du coup faire un petit distinguo que je n'ai pas fait. C'est pour ça que je rajoute toujours le pyramidal derrière le hiérarchique. C'est que ce qui distingue le pyramidal des simples hiérarchiques, c'est que le sommet de la pyramide n'a plus de contact avec le bas. Et donc, dès qu'on a un étage intermédiaire qui fait filtre et où les gens qui sont au-dessus ne parlent plus aux gens d'en bas, là, on passe dans le pyramidal. Chez les loups, le couple dominant assure, je dirais, la pérennité de la hiérarchie en étant en interaction absolument avec tous ses membres. Ça, c'est la distinction que je fais. Et ce sont quand même des sociétés relativement rares. Les animaux, alors il y a des tas de... C'est vraiment difficile de généraliser, justement. Il y a des tas de modes d'organisation animale différents. Puis déjà, toutes les espèces animales ne sont pas non plus des espèces sociales. Mais en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie pyramidale dans le sens où je viens de le définir. Ça, c'est sûr.
D'accord, okay, ouais, ok.
Alors en tout cas, pour coopérer, renouer avec la confiance, son corollaire, et retrouver une place juste, il faut aussi lutter contre ce qui a dégradé les liens sociaux, notamment contre le numérique et les écrans. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France Info le 14 juin 2023.
L'hôpital de Bondy en région parisienne...
Bien, on va aller dans le bureau ici.
...est le premier à proposer une consultation pour des très jeunes accros aux écrans.
Et là, il y a quand même des jouets.
Lors du premier rendez-vous l'an dernier, Youssouf avait 4 ans, ne parlait pas et passait 6 à 7 heures par jour devant la télé.
Depuis l'âge de 6 mois.
Depuis l'âge de 6 mois.
La télévision surtout.
La télévision, ouais. C'était dans le petit transat.
C'est ça.
La télé, du matin jusqu'au soir.
Le petit garçon ne dormait plus. Il a même été hospitalisé, victime d'hallucinations visuelles et auditives. Jusque-là, sa mère pensait bien faire.
Pour moi, c'était éducatif. Et au contraire, et j'allais souvent à la recherche de, d'autres dessins animés à lui faire découvrir parce que je pensais que c'était la chose qu'il fallait pour l'aider à parler.
L'écran, avant 6 ans, n'apprend rien.
J'ai repris mon rôle de parent, de maman, à jouer avec mon fils et je ne savais pas jouer. Il fallait que moi-même je réapprenne. J'ai énormément culpabilisé. Énormément parce que j'ai failli emmener mon fils volontairement à l'handicap.
On est à discuter d'une situation où l'enfant se retrouve captif, le parent n'est pas disponible, il est en télétravail, il est sur son écran, il a besoin de temps, l'enfant se retrouve dessus et il ne peut plus le lâcher parce que c'est ce qui lui plaît et que tout est fait pour qu'il ne lâche plus.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et là, Laurent, on écoute ce reportage et on découvre quand même que cette société, hein, ultra moderne, ultra connectée, que l'on pense certainement là pour du mieux être et du mieux vivre, est au fond catastrophique pour l'humain.
C'est magnifique ce témoignage de cette mère. D'abord, bon, la culpabilité quand on est parent, dans les 3 minutes, on commence à parler du rapport avec ses enfants, le mot culpabilité apparaît. Mais ce passage de la captivité par l'écran au jeu. Et ce qu'elle dit, c'est apprendre à jouer. Je pense qu'il n'y a pas de chose plus fondamentale à faire avec un enfant si on veut un rapport coopératif avec lui. Et moi, j'essaye vraiment de pousser cette opposition, collaboration, coopération dans tous les espaces, dans ce que j'appelle les 3 sphères de la coopération, c'est-à-dire les liens intimes, les liens sociaux et les liens vitaux. Et dans les liens intimes, évidemment, dans la sphère familiale, il y a cette question absolument essentielle de l'éducation. On a un grand débat en France sur la question des limites versus une éducation qui serait beaucoup plus libre, etc. Je crois qu'on passe complètement à côté de ce qui est en train de se passer, qui est le collaboratif versus le coopératif. C'est-à-dire comment concevoir l'éducation comme une succession de tâches à accomplir, comme une espèce de performance familiale, en scindant absolument tous les espaces de la connaissance et en disant, voilà, au fond, il y a des tablettes pour ça, il y a un logiciel pour ça, et donner l'idée aux enfants qui vont apprendre à lire ou à écrire en détachant le langage des personnes et en détachant le langage des situations, ce que font ces programmes-là. Bon, je trouve ce témoignage absolument formidable. Il pourrait pas illustrer davantage à quel point la collaboration peut détruire la coopération. C'est-à-dire, si on pense à la coopération comme un processus d'éducation réciproque, parce que quand on a des enfants, on réalise assez vite que les enfants vous élèvent autant que vous les élevez et vous éduquent autant que vous les éduquez. Et la question, c'est bien d'avoir ce dialogue sur l'éducation réciproque et de permettre que cet espace soit libre, ce qui évite que d'enfermer l'enfant dans le fantasme du parent, et d'ailleurs que l'enfant enferme aussi le parent dans son propre fantasme. Donc de laisser un espace qui soit véritablement un espace de liberté. Et là, il y a quelque chose de... Je sais bien qu'il faut pas céder à la panique morale et que dénoncer le tout numérique aujourd'hui est mal vu, en particulier parmi les jeunes générations. Mais on ne fera pas l'économie de ce débat. Il y a quelque chose de profondément toxique dans cette espèce de transition numérique qu'on a engagée, qu'on est en train de réussir merveilleusement bien à l'heure où on est en train d'échouer à peu près sur tous les fronts de la transition écologique. Je voudrais quand même dire un mot de la situation de l'environnement. Aujourd'hui, les crises écologiques vont à la vitesse d'un cheval au triple galop. Premier galop, le climat. Jamais autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'en 2023. Deuxième galop, la destruction de la biodiversité. Jamais autant de destruction de biodiversité qu'en 2023. Et troisième galop, la consommation de ressources naturelles. Jamais autant de consommation de ressources naturelles qu'en 2023. On est censé être au milieu de la décennie critique qui allait voir à la fin des années 2020 des progrès absolument majeurs. On va dans la mauvaise direction en accélérant. Donc il faudra se poser la question de ce qu'on est capable de réussir dans ce monde et de ce sur quoi on échoue. Et on verra à ce moment-là que ce qu'on réussit magnifiquement bien, c'est la transition numérique, et ce qu'on est en train complètement de rater, c'est la transition écologique. Et je suis persuadé qu'il y a un rapport entre ce succès et cet échec.
C'est la raison pour laquelle vous dites dans votre livre, au début des années 2000, nous nous sommes trompés de transition. Alors, vous développez beaucoup de choses, hein, aussi à partir du numérique, la crise des liens intimes avec les amours numériques, hein, ou les rencontres sur des sites, les méfaits des écrans pour les enfants, le frein à la scolarisation primaire. Vous mentionnez aussi le choix du gouvernement suédois, hein, d'interdire c'est-à-dire les outils numériques en classe, et puis aussi des constats faits à l'école, le fait qu'on est vraiment aussi dans ces structures où les enfants devraient être là pour un apprentissage dans le plaisir, dans le ludique, avec du jeu. On est là aussi dans la collaboration plutôt que de la coopération avec Parcoursup, Mon Master, etc. C'est toute une société que vous développez en nous faisant aussi comprendre que tout cela amène une rupture de liens intimes et de liens sociaux avec l'isolement qui s'infiltre partout.
Oui, et là, il y a vraiment un phénomène qu'on appelle désormais l'épidémie de solitude et qui est étudié de façon très précise depuis une quinzaine d'années dans ce qui est sans doute le post-avancé d'une société en fracturation, qui est la société américaine, qui, de ce point de vue-là, est aux avant-postes de cette hyper-fracturation, en même temps qu'il y a cette hyper-connexion, c'est-à-dire qu'on voit très bien de quelle manière l'un peut complètement masquer l'autre, et on a une société qui est dévastée par l'épidémie de solitude. Et j'appelle ça la pandémie de solitude parce que on a des phénomènes post-Covid où on voit, en fait, à quel point le Covid a provoqué des phénomènes de dissociation. Moi, je suis très étonné, par exemple, du fait que, puisque nous sommes à Paris, très peu de gens s'interrogent sur le fait que Paris est en train de changer complètement. La physionomie de Paris et l'aspect espace public de Paris est en train de changer complètement. On voit des endroits qui se désertifient. On voit une ville qui, à partir du jeudi soir, le vendredi, devient complètement déserte. Et on a cette espèce de flux vital qui est vraiment le flux de la coopération humaine, qui a été très bien étudié par Jane Jacobs, qui est en train de quitter véritablement les espaces urbains. Donc on a des processus, évidemment, du fait du télétravail, etc. Mmh. Et puis aussi du fait que, pour plein d'autres raisons, mais il y a vraiment cette espèce de dévitalisation, oui, et d'amenuisement des liens sociaux qui est vraiment un phénomène absolument majeur qui, pour l'instant, est complètement sous le radar en France et ailleurs, qui devient extrêmement visible aux États-Unis et qui devient un énorme problème de santé publique. C'est-à-dire, ce que disent en fait les autorités sanitaires américaines, c'est qu'aujourd'hui, l'isolement social est équivalent au fait de fumer 20 cigarettes par jour. C'est-à-dire, en termes de destruction de la santé, c'est de ce niveau-là. Et on sait qu'on a une crise de désocialisation absolument massive dans la jeunesse, française, belge et au-delà, qu'on a une crise absolument massive des liens sociaux dans toutes les sphères de la coopération. Et donc, il faut absolument affronter ça, parce que, une fois de plus, on ne pourra pas affronter des chocs écologiques aussi violents que ceux qui sont en train de se passer sous nos yeux et songer que les 5 prochaines années vont être particulièrement douloureuses avec la combinaison de la crise climatique qui va si vite et du super El Niño. On ne pourra pas affronter des chocs écologiques aussi violents avec un corps social aussi faible.
Et vous précisez qu'en France, selon l'INSEE, on compte 11 millions de personnes qui vivraient seules. Gauthier Chapelle, sur ces questions-là, on aurait pu parler aussi des relations avec le monde vivant animal, puisqu'il est accablant. 96% des mammifères terrestres sont issus des élevages. Ce sont ce que Éloi Laurent appelle les animaux-machines, l'instrumentalisation du monde vivant, l'épuisement des sols, l'agriculture industrielle, les rendements qui s'essoufflent, la grippe aviaire, les épidémies, etc., etc. Votre regard par rapport à cela sur une planète qui ne demande qu'une chose, peut-être, c'est d'être considérée comme une planète, une santé.
Oui, tout à fait. Du coup, moi, j'ai envie de le connecter aussi au début, à la séquence que vous nous avez fait écouter sur l'impact du numérique sur les enfants, à travers une expérience que nous menons maintenant avec d'autres familles depuis quelques années, qui est de ramener les enfants pour non seulement pas derrière les écrans, mais même pas dans une école classique, j'ai envie de dire, mais directement dans la forêt, entouré par des parents et aussi ce qu'on appelle des mentors, mais donc des adultes qui eux-mêmes ont des enfants en général et qui sont là, je dirais, de façon professionnelle, en tout cas 2 jours par semaine. Et le but, c'est vraiment justement de pouvoir être directement dans le jeu, notamment parce qu'ils baignent aussi dans le vivant, dans la forêt toute la journée. Et du coup, ça leur rappelle sans qu'on leur explique, il n'y a pas besoin de leur expliquer, que l'essentiel de la planète, c'est quand même d'abord des écosystèmes vivants qui nous permettent de respirer, de manger chaque jour, et que les villes, c'est juste une partie, quoi. L'idée, c'est vraiment de créer une autre culture que cette culture de destructrice et quantitative et verticale, etc., telle que vous l'avez énoncé dans les minutes précédentes.
Ce sont ces écoles dehors, comme on dit en France, mais on les voit fleurir aussi dans d'autres pays.
Ce qu'on appelle l'école du dehors maintenant, c'est de permettre au moins aux écoles normales de sortir leurs élèves au moins une fois tous les 15 jours ou toutes les semaines. Mais là, nous, on est un pas plus loin avec d'autres. Il y a d'autres expériences en cours, singulièrement comme d'habitude, en Europe dehors d'abord, où c'est vraiment plusieurs jours à l'école dehors, et le reste du temps, les enfants sont déscolarisés, donc on est dans un cas qui, je crois, est encore possible en France, mais qui s'est fort durci, qui est de l'instruction en famille, mais sauf que l'instruction en famille, on le fait avec un ensemble de d'autres familles, ce qui nous permet d'avoir aussi le côté socialisation et d'avoir aussi le côté tribu, qui est une autre façon de simplement avoir des enfants qui sont au contact d'adultes qui font des choses et ils apprennent au contact des adultes qui font des choses, comme ça se fait dans énormément d'autres sociétés et comme ça se fait depuis la nuit des temps. C'est juste notre société à nous qui a inventé autre chose avec l'enseignement obligatoire, institutionnalisé, quantifié, évalué, etc. Faut pas me lancer là-dessus. Hein.
Mais c'est parfait et nous allons continuer parce que réinventer les solidarités et les nouveaux modes d'action des communautés agissantes, inventer un futur plus biomimétique mais sans les travers de nos sociétés actuelles, nous en parlons dans un instant.
Ce soir je veux un verre aux fruits tendres. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre aux fruits tendres. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Oh, notre nuit sera au green, green, green. Au green, 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 loin des particules. Sans une lueur, marre des cités dortoirs comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Ce soir je veux du noir, du vrai sans une lueur. Marre des cités dortoirs comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Oh, notre nuit sera au green, green, green. Au green, 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 loin des particules fines. Oh, me, no, notre nuit sera. Apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces cons qui sont fiers. Et donne au baiser bio, naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream dream, oh green dream dream, loin des particules.
C'était Stéphane qui chantait Green Dream, un choix musical proposé par Maïna Barraut, étudiante de Sciences Po Poitiers. Et c'est la suite du magazine de l'environnement sur France Culture, De cause à effet. Nous questionnons la possible, voire nécessaire métamorphose de nos sociétés vers plus de coopération, d'entraide, de solidarité et de confiance afin de relever les défis du 21e siècle. Nous en discutons en compagnie de Éloi Laurent, économiste, enseignant-chercheur à l'OFCE Sciences Po, à Pont-Paris-Tech et à l'Université de Stanford, auteur du livre « Coopérer et se faire confiance », un livre édité chez Rue de l'Échiquier, et avec Gauthier Chapelle, ingénieur agronome, chercheur, docteur en biologie, co-auteur avec Pablo Servigne des livres « L'entraide, l'autre loi de la jungle », un livre édité par Les Liens qui libèrent, et on peut mentionner « L'effondrement et après, expliquer à nos enfants et à nos parents », un livre paru au Seuil.
Dans une commune près de Toulouse, c'est aussi une application lancée pendant le confinement qui a rapproché les habitants. Elle permet d'échanger des services ou des objets. Anne-Marie a ainsi fourni de la terre à Gaël pour planter son premier potager.
C'est pratique. On passe une annonce et il y a toujours quelqu'un.
C'est une petite chose ou c'est finalement très important ?
C'est très important. Le lien, c'est ce qui permet de rester serein dans ces temps troublés.
Les conseils de jardinage ont fini par rapprocher les deux femmes qui se sont connues grâce à la crise.
Wow, mais il est beau,
magnifique.
Il est beau, ton parent.
Les enfants de Gaël, quant à eux, peuvent profiter de ce trampoline, offert là encore par une autre habitante.
Elle n'a rien voulu en échange, donc en plus ça a été un don. Donc moi j'étais un peu gênée de ça, mais voilà.
Et vous êtes restée en contact ?
Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Dans toute la commune, les gestes solidaires sont visibles. Ici, le boulanger est aidé par un cuisinier au chômage partiel à cause de la crise sanitaire.
Théoriquement, je suis en vacances, forcé, mais là, je travaille tout le temps. Mais bon, c'est pas grave.
Pour rendre service aux uns aux autres ?
Voilà. Que ça soit même le voisin pour la piscine ou quoi que ce soit. Voilà, ça coûte rien de rendre service.
Reportage diffusé sur France 2 le 12 février 2021 avec donc l'exemple de ces solidarités qui perdurent après le confinement, après... le coup de massue reçu par tous les citoyens, et cet avant et cet après Covid-19 dont vous parlez, Éloi Laurent, dans votre livre, avec aussi des conséquences, des stigmates que vous relevez quand même.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, oui, et on n'a toujours pas fait, et c'est bien normal parce qu'il va nous falloir une génération pour le faire, mais le bilan sanitaire absolument effroyable de la pandémie de Covid, et d'ailleurs il y a deux sujets qui sont aujourd'hui largement passés sous silence parce que, comme vous l'avez dit, on est passé à autre chose, et je pense qu'on est passé à autre chose aussi pour oublier très vite la réalité de ces chocs écologiques. La première, c'est les origines du Covid, et moi je suis très frappé du fait qu'on continue de prétendre que tout ça est très mystérieux, on n'en a pas la moindre idée, alors qu'on a eu des articles dans les revues les plus influentes au niveau scientifique pour nous montrer que c'était tout à fait en lien avec les phénomènes de zoonoses qui sont parfaitement connus, identifiés, et qui tiennent à l'instrumentalisation du vivant et à la destruction du vivant par les systèmes obsédés par la croissance économique, qui font que la déforestation, qui font que l'élevage industriel, qui font que ces animaux-machines qui travaillent pour nous, bien entendu, au bout d'un moment, se retournent contre nous. Mais c'est en fait notre propre action qui se retourne contre nous. Et on a ces transmissions de maladies infectieuses qui s'amplifient depuis 15 à 20 ans. Et la Covid-19 est très clairement dans cette filiation-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on passe sous silence. Et là, et on continue à agiter des espèces de thèses qui repose absolument sur rien, de construction par l'homme, de virus, enfin, qui relève de la science-fiction. Et de l'autre côté, mais pour à mon avis ne pas avoir cette responsabilité humaine absolument fondamentale, mais c'est pas le fait de construire le virus, c'est le fait de construire la croissance économique. Et de l'autre côté, le bilan sanitaire de la Covid. Donc on continue à penser qu'il est de l'ordre de 6 millions de morts, alors que c'est 18, 20 millions de morts, et encore sans les morts chinois, dont personne n'a une comptabilité exacte, puisque je rappelle que la Chine prétend qu'en tout et pour tout, elle a déploré autant de morts que la France pendant la première vague, c'est-à-dire de l'ordre de 35 000, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de 2 à 3 millions, sans compter tous les morts qu'on n'a pas comptabilisés correctement. Et quand on le fait et les articles commencent à sortir, on est déjà sur des bilans officiels qui sont à 15, 16 millions, mais qui ne prennent en compte que les années 2020, 2021, 2022. On n'a pas les Covid longs et on n'a pas la crise de désocialisation qui a suivi. Donc c'est un choc absolument massif sur la santé humaine, de désocialisation, de destruction de la vie, qui vient de la destruction de la vie. Donc on est vraiment dans une crise des liens. C'est vraiment fondamental de comprendre ça.
Avec une jeunesse qui montre justement ce mal-être et ce malaise, avec on voit bien certains touchés par ce qu'on appelle la solastalgie ou l'éco-anxiété. Et puis d'un autre côté, des familles qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, qui sont mortes dans un isolement, on parlait, à l'hôpital, de par la situation dramatique, et qui restent aujourd'hui demandeurs de quelque chose, qui se passe quelque chose, notamment en France, demandent de certaines une famille qui aimerait qu'il y ait une journée de souvenir pour au moins pouvoir effacer ces stigmates ce traumatisme.
Vous avez parfaitement raison. Rendez-vous compte, c'est complètement ahurissant. On fait des cérémonies aux Invalides à peu près toutes les 24 heures aujourd'hui. On a une espèce de président obsédé par la mémoire, sans doute parce qu'il a beaucoup de mal à envisager l'avenir, et on a ces espèces de cérémonies à répétition et de républiques cérémonielles permanentes. On n'a pas de moment pour rendre hommage à ce qui se passe, ce qui s'est passé, la crise de santé mentale de la jeunesse, effectivement le deuil impossible, les restrictions absolument vertigineuses de liberté civile et de droit politique qu'on a eu à subir en France, qui a été un des confinements les plus durs de la planète. Donc, en effet, je suis tout à fait frappé du fait que on veut oublier, et en un sens, ce livre effectivement commence par là. Parce qu'il remet les choses dans la crise des liens. Et à ce moment-là, on a effectivement... Alors, pour revenir à l'extrait que vous avez passé, extrait paradoxal et très intéressant, ça commence par... On a créé une application. Et c'est une application pour se rapprocher. Mais en fait, très vite, on comprend qu'on utilise le numérique pour ensuite...
Renouer des liens intimes et humains.
Bien sûr, œuvrer ensemble. Et ensuite, très vite, on prononce le mot de don. Et donc là, on voit bien que c'est pas du tout... L'idée n'est pas de déclarer la guerre au numérique et de supprimer tous ces outils qui, malheureusement, enfin... vont rester avec nous. Par contre, la financiarisation de la vie intime et le fait qu'on n'est pas du tout dans le don, mais dans le fait de se vendre en permanence sur les réseaux sociaux et de quantifier absolument tous les aspects de sa vie intime, c'est un immense problème. Et avoir une jeunesse qui grandit dans ce genre de paradigme, c'est un immense problème. Donc l'enjeu n'est pas de détruire le numérique, l'enjeu est de le remettre à sa place comme l'économie. Et en un sens, ce que le livre essaye de faire, c'est de montrer, de donner à voir qu'au début des années 90, il y a une double emprise qui commence à véritablement se faire sentir dans nos sociétés. Il y a l'emprise économique qui est déjà là depuis un moment parce que le néolibéralisme ne commence pas au début des années 90, mais il s'intensifie. Et là, il est accéléré, cette emprise est accélérée par l'emprise numérique. Et c'est exactement le monde dans lequel on est aujourd'hui et qui nous empêche précisément d'envisager ces nouvelles façons d'être ensemble dont on a furieusement besoin aujourd'hui.
Gauthier Chapelle, on va basculer dans les solutions. Je crois que de votre côté, vous regardez aussi vers d'autres cultures qui peuvent être inspirantes pour mettre en œuvre cette autre société de la coopération et de l'entraide.
Oui, effectivement, moi j'aime bien rappeler que ce qui se passe pour l'instant n'est pas juste un dysfonctionnement de l'espèce humaine, mais un dysfonctionnement d'une civilisation en particulier, qui bien sûr est dominante maintenant et exporte sa culture partout. Il y a d'autres moyens d'être humain et d'autres façons d'être humain qui ont été expérimentées et qui le sont encore ailleurs. Et notamment, effectivement, sur cette question du don, moi j'ai bien aimé que ça soit ça aussi qui soit ressorti. Je relis une phrase qui a été dite par cette dame, le lien c'est ce qui permet de rester serein en ces temps troublés, ça commence bien. Et puis il y a le rien en échange, c'est un don un peu gêné. Alors ça c'est intéressant, dans notre société on est gêné de recevoir des dons, alors que nous disent les tenants de l'économie du don, et en particulier du don unilatéral, c'est que comme enfant, on a tous reçu de nos parents, sans comptabilité, et surtout, comme parents, on donne, sans comptabiliser. Et on donne pour répondre aux besoins de l'autre. C'est ça le moteur principal, et ça se retrouve dans des sociétés qui ne se sont même pas monétisées, qui n'ont même pas instauré les échanges en tant que dire « je te donne ça, mais je te donne ça uniquement si tu me donnes ça », mais simplement qui chacun donnait leur surplus à ceux qui en avaient besoin, motivé par le besoin dans lequel il voyait l'autre, et avec la confiance, le maître mot revient, avec la confiance que ça leur reviendrait en temps utile, c'est-à-dire en réciprocité, non pas directe, mais en réciprocité indirecte, dans une espèce de confiance aveugle dans la bonté et de l'univers, des écosystèmes dans lesquels ils vivaient, et de la société dans laquelle ils vivaient, que si je redistribue en permanence mes surplus, qui sont pas les mêmes pour chacun, eh bien, en temps voulu, j'en recevrai quand j'en aurai besoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand on le fait, comme cette dame en témoigne, on en est gêné. Et c'est une question que ça pose. Et on peut même plus donner calmement. Et il y a l'autre monsieur là qui disait « ça coûte rien de rendre service ». J'ai trouvé ça de nouveau très très intéressant. Ça, c'est ressortir de l'économie qui calcule et qui monétise tout et revenir à une économie du don.
Et là, Laurent, est-ce que ça ne résonne pas un peu avec ce qu'on voit fleurir quand même dans certains territoires, peut-être plus à plus petite échelle, ou des villages, ou des petites villes, une sorte de démocratie participative? Est-ce qu'il ne faut pas justement aider peut-être ces mouvements qui émergent vers une véritable démocratie de la coopération?
Ah si, bien sûr, il faut faire beaucoup plus que les aider, il faut les embrasser, il faut les porter, il faut les promouvoir, il faut en parler. Et en effet, heureusement, Gauthier a donné un exemple d'initiative sur la question de l'éducation, de collectifs qui se recréent, qui essayent d'échapper, en un sens, d'échapper à l'école. C'est-à-dire que l'école est devenue un tel terrain d'oppression par les indicateurs qu'en fait, pour vouloir éduquer les enfants, il faut tenter d'échapper, en un sens, à cette espèce de pression complètement folle de l'éducation par les indicateurs, qui est évidemment une folie. Et aujourd'hui, éduquer, c'est résister aux indicateurs, fondamentalement. Mais ces collectifs-là se recréent partout. Et donc, à l'heure, effectivement, d'indiquer des solutions. Moi, je plaide tout au long du livre pour le fait de restaurer un temps de coopération. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est à la fois des espaces de coopération, mais un temps de coopération. Je crois que quand on discute véritablement avec, aujourd'hui, autour de soi, vraiment, les gens n'ont plus le temps. C'est-à-dire, ce qui leur manque le plus, c'est ça. C'est-à-dire, tout le monde est totalement accaparé, soit par le travail, une fois de plus, nourri aux outils numériques, soit par le loisir, nourri aux outils numériques aussi. C'est-à-dire, la professionnalisation du temps libre et le fait que le temps libre est, en un sens, mis à profit pour, et dans une espèce de mélange absolument terrible. Je dis, l'espace public se vide, l'espace privé se brouille, parce qu'effectivement, l'espace privé devient lui-même, en fait, un terrain en permanence de financiarisation, de quantification, etc. Et donc, le temps de coopération, c'est quelque chose d'essentiel, à la fois recréer des espaces de coopération. On voit une fois de plus très bien dans les villes de quelle manière ce qu'on est en train de perdre, c'est la capacité des villes à créer la coopération humaine, remplacée par, bien sûr, l'intelligence artificielle, puisque la grande chose qui est en train d'occuper le terrain, qui est laissé vacant par l'intelligence collective, c'est l'intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, vraiment, la coopération, c'est quelque chose à la fois qui nous distingue, pour moi, du reste du vivant, mais aussi qui nous distingue des machines. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant. Parce que c'est la part inimitable, en fait, de notre intelligence. C'est ce que jamais ChatGPT arrivera à reproduire. C'est cette coopération entre deux êtres humains parce qu'elle est profondément illimitée et indéfinie. Donc il y a la question des espaces, reconstruire des villes, reconstruire des écoles, reconstruire des institutions de la coopération. Et il y a la question du temps, qui est une question absolument essentielle et qui veut dire, dans, sur le lieu de travail, d'avoir des moments où il n'y a plus d'écran, où il y a une parole libre qui peut être une instance de délibération, mais tout simplement aussi des instances d'imagination. C'est vrai aussi pour l'école, où évidemment ce serait une folie de vouloir introduire les outils numériques. Et il faut absolument y résister, parce que c'est un appauvrissement total de l'intelligence collective. Il y a la question de la santé aussi. Donc en fait, il y a tout...
Oui, la santé, ce qui est intéressant, Edouard Laurent, je vous coupe, mais vous parlez des volontaires de la santé en Thaïlande, par exemple. C'est là aussi, on retrouve de la coopération et de l'entraide, une confiance qui s'établit. Leur rôle, c'est de prévenir, d'informer avant qu'il n'y ait finalement un drame ou le décès de quelqu'un.
Bah, c'est la question de la santé communautaire. C'est Serge Morand, le grand spécialiste français de l'approche Une seule santé, que je fais parler là dans le livre et qui m'a appris ça, qui montre comment des petits pays comme la Thaïlande, avec des moyens sanitaires beaucoup moins importants, bien entendu, que la France, ont réussi par la santé communautaire, finalement, à mieux résister à la pandémie de Covid, concrètement, que bien des pays qui ont des moyens absolument colossaux du point de vue. Donc, il y a toute une santé communautaire à réinventer, qui n'est pas du tout, évidemment, la santé qu'on est en train de faire en France. Dans chacune des sphères de la coopération, je consacre la dernière partie du livre à essayer de tracer des voies praticables, à la fois pour l'éducation en a parlé, pour la question du travail, pour la question de la santé, pour la question aussi de la coopération avec les autres espèces, qui est absolument essentielle, les coopérations écosystémiques, mais aussi les coopérations avec, évidemment, les espèces végétales et animales. Donc, et bien entendu, de ce point de vue-là, il ne faut vraiment pas caricaturer du tout les sociétés dites primitives, autochtones, indigènes. Je veux dire, il faut rappeler qu'au niveau international aujourd'hui, des institutions comme l'IBES, qui est la plateforme des Nations Unies sur la biodiversité et les écosystèmes, fait un rapport en 2019 qui remet complètement au centre de la préservation de la biodiversité les communautés indigènes. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre du romantisme du noble sauvage qui nous réapprendrait à nous occidentaux perdus comment vivre. C'est que en fait les gens qui s'occupent de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes aujourd'hui montrent que c'est dans ces sociétés coopératives là qu'on préserve le mieux la biodiversité et les écosystèmes.
Ben nous allons justement nous tourner vers ce monde du vivant non humain puisqu'il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous partons en Norvège, le premier producteur de saumon d'élevage dans le monde. En 2023, l'aquaculture a battu tous les records, celui des exportations qui ont rapporté 172 milliards de couronnes aux pays scandinaves, soit 15 milliards d'euros, mais également le record de mortalité des poissons dans les fermes. Nous sommes avec Anne-Françoise Hiver, correspondante du Monde dans les pays nordiques. Bonsoir Anne-Françoise.
Bonsoir.
Alors vous allez nous parler du dernier rapport annuel sur la santé des poissons publié par l'Institut vétérinaire le 12 mars dernier. Que révèle-t-il exactement ?
Eh bien, on savait déjà que les chiffres de la mortalité des saumons dans les fermes étaient mauvais. Ce rapport le confirme. Au total, 62,8 millions de saumons sont morts en 2023 avant d'atteindre l'abattoir. Cela représente un taux de mortalité de 16,7%. C'est le plus élevé jamais enregistré. Il était de 16,1% en 2022. Certes, la progression n'est pas énorme, mais ce qui inquiète les chercheurs de l'Institut vétérinaire, c'est que la tendance est à la hausse, et ce depuis plusieurs années, ce qui montre l'incapacité de l'aquaculture à résoudre le problème. Il faut savoir que dans certaines régions, la mortalité atteint jusqu'à 25%.
Alors comment explique-t-on ce niveau de mortalité ?
Eh bien, c'est justement ce qui est intéressant avec ce rapport de l'Institut vétérinaire, car il s'intéresse pour la première fois aux causes. Dans 20% des cas, elles sont inconnues, mais deux facteurs principaux se distinguent. D'une part, les maladies infectieuses, responsable de la mort des saumons dans 38% des cas. D'autre part, les blessures ou les traumatismes associés à 33% des décès. Or, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, l'Institut pointe du doigt les traitements contre les poux subis régulièrement par les poissons pour détruire le parasite qui pullule dans ces élevages intensifs. Auparavant, les éleveurs utilisaient des traitements médicamenteux, mais ils ne sont plus efficaces. Les poux ont développé une résistance. Ils ont donc recours à un traitement mécanique. Les poissons infectés sont sortis de la piscine, puis nettoyés sous l'eau à une température d'environ 28 degrés avant d'être remis dans les bassins. Or, non seulement ils vivent très mal le choc thermique, mais en plus, ils s'en sortent fréquemment avec des blessures qui s'infectent rapidement, pouvant causer leur mort.
Alors, est-ce qu'il y a une solution ?
Eh bien, en croire Edgar Brune, qui est directeur du département de la santé des poissons à l'Institut, il devrait être possible de maintenir ce taux de mortalité en dessous de 10%. Certains éleveurs le font déjà, en limitant la surpopulation, en faisant attention à l'hygiène, mais aussi en s'installant dans des zones suffisamment éloignées d'autres fermes. Le gouvernement est d'ailleurs en train d'élaborer un livre blanc sur le bien-être animal qui pourrait donner lieu à une nouvelle réglementation. Les Verts proposent déjà de réduire les volumes de production autorisés pour les fermes qui dépassent 5% de mortalité. L'industrie, de son côté, a annoncé plusieurs initiatives dans le domaine de la recherche. Alors pour Edgar Brune, cependant, il est encore trop tôt pour dire si elles vont déboucher sur des actes ou bien s'il s'agit juste d'une campagne d'affichage.
Restez un petit peu avec nous, Anne-Françoise Hivert. Je vais me tourner tout de suite vers Gauthier Chapelle, notre ingénieur agronome. Peut-être qu'il aura envie de réagir à votre article, justement, et à votre chronique.
Tu sais que j'ai étudié des crustacés dans une autre vie, pour ma thèse très précisément. Et les poux dont on parle ici sont des isopodes, de la famille des cloportes. On sait que c'est un vrai problème, mais le problème qu'il y a derrière surtout, c'est l'intensification à outrance. On parlait tout à l'heure des 96% d'animaux d'élevage. C'est le cas ici. Ce qui n'est même pas mentionné, c'est que ces saumons sont en plus en train de contaminer par les concentrations qu'ils représentent, les rares saumons sauvages qui restent aussi. Donc c'est un vrai problème silencieux et qui ne touche pas grand monde parce qu'on se sent plus concerné par les ours polaires que par les saumons. Et on est dans quelque chose qui ressemble à l'élevage intensif bovin, porcin, et tous les autres. On est exactement dans la même maladie du rendement, et les chiffres qui ont été donnés, notamment de ce que ça a rapporté, sont juste vertigineux par rapport à l'investissement qui est vraiment mis pour essayer d'éviter tous ces dégâts collatéraux.
Ça pose la question de reconnaître des droits aux vivants ?
Ah oui, bien sûr. Le saumon, en l'occurrence, fait partie dans plusieurs peuples qui ont vécu en équilibre avec leur population de saumon pendant littéralement des milliers d'années. Si vous allez sur la côte ouest américaine, en 200 ans, on a détruit cet équilibre et on termine de le détruire maintenant entre les barrages, la surpêche, la pollution, etc. Alors que le saumon était même vénéré, à chaque fois qu'il remontait, on laissait les premiers passer, ce qui était un rituel, mais ce qui était aussi une façon de sélectionner, entre guillemets, les plus costaud. C'était probablement pas volontaire, mais le résultat était là. Et surtout, voilà, il y avait une gestion intelligente de la ressource, une compréhension de l'interdépendance, reblat le mot, qui permettait de maintenir ces équilibres avec les populations de saumons, littéralement pendant des milliers d'années.
Éloi Laurent ?
Non, mais c'est fascinant cet exemple. C'est-à-dire qu'on a des animaux machines, donc on sort, qu'on va shampouiner, puis j'imagine on leur passe le panier anti-poux, etc. Donc en fait, on a une espèce de système complètement absurde, censément efficace, censément dicté par des logiques d'efficacité, qui est totalement inefficace par rapport à la logique qui serait restaurer des règles de coopération humaine qui permet précisément, comme l'a dit Gauthier, et ont permis, donc spécialement dans les civilisations du Pacifique Nord-Ouest, pendant des milliers d'années de vivre en coévolution, on détruit ces principes de coopération, on détruit les liens naturels, et ensuite on a effectivement cette espèce de système de plus en plus inefficace jusqu'à l'inefficacité totale. Et on sait qu'on a des communautés qui sont capables d'exploiter de manière soutenable pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années, comme l'a montré Elinor Ostrom, des ressources naturelles, parce que tout simplement, il y a ces principes de coévolution qui sont en fait rien d'autre que de la coopération sociale articulée à la coopération avec des êtres non humains. Et là, on a vraiment le modèle même de l'inefficacité totale d'un système qui a été créé sur le principe de l'efficacité.
Merci Anne-Françoise Hivert.
Merci.
Et bien sûr, votre article sur le sujet est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et puis sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, encore peut-être quelques minutes, mais on aimerait que ça dure plus longtemps, parce que ce sujet est tellement riche dans ses idées aussi émises pour penser cette société de la coopération et puis engager la métamorphose. Et là, Laurent, cela sous-entend quand même qu'il y ait, à un moment, une vraie politique publique de la coopération et de la confiance. Hein. Vous le mentionnez comme tel, je crois, en précisant qu'il faudrait que ce soit un service public, en fait, la coopération.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, je mentionne aussi le fait que aujourd'hui, les collectifs coopératifs s'organisent assez largement contre la puissance publique, qui devient un immense obstacle à cette transition sociale écologique qu'on voudrait voir engagée. C'est-à-dire que il y a tout un discours qui veut que si on n'y arrive pas, c'est parce que la puissance publique n'arrive pas à venir à bout des intérêts individuel et particulier d'une société civile qui ne voudrait pas de la transition et qui serait rivée à des horizons de court terme. C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que quand on prend toutes les enquêtes, par exemple en France, on voit que les préoccupations environnementales sont absolument prioritaires aujourd'hui, que indépendamment de tous les chocs successifs et de tous les éléments de la polycrise, on a la question environnementale qui est maintenant absolument au sommet des préoccupations et on a un État qui passe son temps à défaire les réglementations environnementales, qui passe son temps à faire en sorte que on revienne encore en arrière sur des sujets absolument cruciaux sur lesquels on a si peu progressé, comme le modèle agricole, comme la question énergétique, etc. Donc en fait, cette idée que c'est l'État qui doit faire la transition à la société civile, par la logique de la coopération, et c'est pour ça qu'elle est tellement puissante, c'est complètement retourné. C'est comment, par la coopération, faire la transition à un État qui est totalement aux mains des lobbies économiques.
Et c'est aussi engager des politiques de coopération qui soient préventives et non pas curatives, finalement. Là, il faut aussi inverser la machine.
Ah bah oui, enfin, c'est particulièrement vrai du système de santé et de cette espèce de système de vase communicant entre l'industrie agroalimentaire et le système de santé aujourd'hui, qui fait qu'on a effectivement des coûts sociaux de la croissance économique et de ces systèmes qui deviennent de plus en plus exorbitants, exactement comme dans cette fable de l'élevage de saumon qu'on vient d'entendre, où si je comprends bien, pour élever les saumons, il faut les faire mourir par millions. Et donc, ce genre d'absurdité, en fait, se reproduit à très, très grande échelle dans un système de santé qui doit assumer des coûts de plus en plus importants du fait de ce système agroalimentaire. Donc, une fois de plus, la coopération est un espoir parce que la coopération, c'est quelque chose dont peuvent se saisir les collectifs humains pour véritablement changer le monde. Et c'est pour ça que c'est tellement important aujourd'hui, je pense, de reprendre cette question écologique, non pas sous l'angle de l'éthique, de la morale ou de la culpabilité, mais sous l'angle vraiment du principe fondamental de la prospérité humaine, qui est la coopération.
Gauthier Chapelle, sur cette question-là, et ce collectif, hein, agir ensemble, s'entraider, les espèces elles-mêmes coopèrent ensemble.
Moi, je voulais en profiter pour rendre hommage aux résidents de la A69 dans votre pays, qui démontre exactement ce que vient de dire Éloi, c'est que eux font de la coopération pour défendre un lambeau de forêt traversé par une autoroute qui a été commandité singulièrement, essentiellement pour servir une industrie pharmaceutique locale contre à peu près toute la communauté locale. Donc je veux dire, c'est une autre fable, hein, en l'occurrence, que celle des saumons, et qui vient d'ailleurs d'être mis en sursis au moins jusqu'au mois de septembre. L'abattage vient d'être arrêté pour protéger des mésanges bleus, ce qui reste assez mystérieux pour moi, mais c'est magnifique que les mésanges bleus aient fini par obtenir ce que les zadistes n'arrivaient pas à obtenir. Mais voilà, un État qui se targue d'avoir accouché de la COP21 et qui en même temps traite comme des terroristes les jeunes qui se mobilisent pour faire de la coopération autour de la question du siècle qui est la question environnementale, ça me laisse assez songeur. Et je pense effectivement qu'il ne faut pas attendre que les institutions verticales nous produisent de la coopération. Il faut la laisser et surtout empêcher qu'on la contrecarre en permanence de toutes les initiatives horizontales à l'échelle locale, qui est l'échelle pertinente, qui est l'échelle de la biorégion. C'est évoqué dans le livre des lois et pas l'échelle du département et de son préfet.
Ah oui, merci à tous les deux. Et ces mésanges bleus, ça fait forcément penser aux oiseaux aussi, des BD d'Alessandro Pignocchi, peut-être un autre signe. Merci à tous les deux. Éloi Laurent, je rappelle le titre de votre dernier livre, Coopérer, se faire confiance, édité chez Rue de l'Échiquier. Gauthier Chapelle a conseillé vos livres écrits avec Pablo Servigne, L'entraide, l'autre loi de la jungle, édité par Les Liens qui libèrent, et puis L'effondrement et après, expliqué confier à nos enfants et nos parents, paru au Seuil. Je précise que vous êtes aussi co-auteur du livre Une autre fin du monde est possible, paru au Seuil également. Toutes les informations, bien sûr, comme d'habitude, la biographie, les liens, les dossiers sont à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Podcast, réécoute, vous y attendent, profitez-en.